Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
14h06, excellent après-midi. Merci d'écouter RMC. Merci de nous rejoindre. Si vous étiez là depuis tout à l'heure, merci d'être resté. Ça fait plaisir. Nous sommes dimanche.
Eh oui.
Le 5 septembre 2021.
Oui.
Qu'est-ce que ça passe vite? L'été est passé vitesse, mon petit madame.
Bah, j'ai l'impression que c'est plus maintenant l'été, quoi, non?
Ouais, un petit peu. Enfin, ça dépend de quel endroit de la France. Beaucoup de sports qui ne sont pas du foot dans cette Intégral Foot.
Eh oui.
Parce que l'événement ce week-end, c'est le rugby.
Ouais, oui, le rugby, la top 14, la première journée en direct sur RMC. Et ce, depuis hier, on a enchaîné toutes les rencontres depuis Biarritz Olympique contre l'UBB. Et ça continuera jusqu'à ce soir. La Rochelle affronte le Stade Toulousain. C'est l'affiche à suivre. On parlera aussi de tennis, Thibaut, parce que, attention, alerte, spoiler. Pas de français en deuxième semaine de l'US Open.
C'est pas vrai.
Tu savais pas.
Ouais.
Ouais, j'ai décidé de spoiler, c'est comme ça.
Périm.
On parlera aussi de Formule 1. Max Verstappen à domicile aux Pays-Bas. En pole position, va-t-il s'imposer face à Lewis Hamilton sans se plaindre de tricherie?
Rendez-vous à 15h, hein, le Grand Prix des Pays-Bas, ce sera à vivre sur RMC avec The Voice, Jean-Luc Roy. Vous le savez, sur RMC, dans l'intégral foot, vos messages, sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le Direct Studio, vos appels également. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez intervenir, dire à Oussem qu'il a tort dans tout ce qu'il dit, n'hésitez pas. Vous faites le 32-16. C'est donc la rentrée pour les rugbymen du top 14. Première journée ce week-end, dispositif exceptionnel sur RMC. Les 7 matchs en direct sur notre antenne avec la Dream Team. Rugby, RMC Sport. On va rappeler, Oussem, justement, les premiers résultats.
Eh oui, ça a commencé dès hier à 14h. Biarritz Olympique s'est imposé pour son retour dans le top 14 face à l'UBB 27-15. Victoire à domicile de Castres face à la section paloise 16-12. Pareil pour Brive qui s'est imposé 36-15 face à Perpignan. Une victoire à l'extérieur et encore, c'était pas un long voyage. C'est la victoire du Racing face au Stade Français 36.
Ça dépend comment tu vas, quoi.
Ouais,
parce que c'est mal desservi
en métro, tu galères un peu.
Tu prends le tram après.
Ouais, tu galères un peu. En tout cas, ça n'a pas empêché les mecs du Racing, les Racingmen, à s'imposer 36-21. Et puis un match nul pour le plus grand bonheur de Denis Charvet, qui a sûrement parié sur le match nul entre le Racing Toulon, le Racing Toulonnais et puis Montpellier 24 partout.
Lyon-Clermont, c'est aujourd'hui à 17h45 après le Grand Prix. Ce sera vivant en direct sur RMC. Mais l'affiche de ce week-end, c'est le remake de la finale du dernier top 14, de la finale de la dernière Coupe d'Europe, La Rochelle-Toulouse, à 21h05. Ce sera là aussi en direct sur RMC, avec au commentaire Romain Asselin, qui est en direct depuis La Rochelle. Salut Romain.
Salut les gars.
Salut Romain.
La Rochelle qui affronte Toulouse. Alors c'est vrai que c'est une belle affiche vue de l'extérieur, mais quand
pas
on est Rochelais, c'est quand même compliqué.
Pour la Rochelle.
L'année dernière, il y a eu 4 matchs, même 5 si on compte un match amical de pré-saison. 5 victoires pour le Stade Toulousain. Ils sont dans quel état d'esprit les Rochelais? Est-ce qu'il y a un esprit revanchard, même si évidemment ça ne leur rendra aucun titre de s'imposer ce soir?
Il est là forcément cet esprit revanchard, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas mieux les taper maintenant, les Toulousains, pour essayer de casser un petit peu cette série-là?
Mais oui, mais si tu les tapes maintenant et que tu perds dans 8 mois en finale encore,
c'est... ça ne servira à rien.
Tu n'as pas de titre.
Oui, mais je pense que mentalement, ils sont obligés de faire quelque chose aujourd'hui.
Ouais.
Il faut casser cette série, absolument, parce que psychologiquement, au bout d'un moment, alors on dit que les séries sont faites pour s'arrêter, et c'est ce que se répète en boucle les Rochelais depuis maintenant de nombreux mois, mais ça ne s'arrête toujours pas.
Et
psychologiquement, si tu prends encore un revers contre Toulouse, la saison va être longue, surtout que derrière, tu te déplaces au Racing, tu vas ensuite à Clermont, tu reçois le promu Biarritz. On a vu hier qu'il était en jambes. Et tu vas à Montpellier. Donc, tu as un début de saison qui est quand même corsé. Si tu es en panne de points dans ce début de saison, sachant que la confiance, va falloir qu'elle revienne vite, si La Rochelle veut surfer un petit peu sur la dynamique de la saison dernière, si tu es en panne de points, ça va être compliqué. D'autant que tu parlais des 5 défaites de la saison passée en comptant le match amical. Si on regarde le bilan de La Rochelle à Deux Flandres, ils n'ont pas perdu de match depuis 2 ans et demi, sauf 2. Et devinez contre qui?
Le Stade Français, non?
Non. Non, c'était Toulouse, mars 2019 et puis février 2020. Toulouse est la seule équipe qui a réussi à s'imposer à La Rochelle en top 14 depuis 2 ans et demi.
Romain, tu es toi au quotidien avec ces équipes, avec La Rochelle, avec le Stade Toulousain. Quel est le club qui a le plus changé cet été, qui a fait le plus gros travail, que ce soit sur les transferts ou même dans la préparation?
Alors j'ai envie de te dire que ça n'a pas énormément changé.
Ouais.
On est vraiment dans la continuité. On a l'habitude de dire qu'on ne change pas deux équipes qui gagnent.
Mais il y en a une qui gagne moins.
Il y en a une qui a perdu 2 finales. Alors si tu regardes vraiment le bilan avec le nombre d'arrivées et de départs, On peut dire que ça a plus changé à La Rochelle, mais très peu en réalité, ouais. Parce que La Rochelle continue de dégraisser. Il y a eu une douzaine de départs, 6 recrues, très ciblées. Voilà, on a un effectif un peu moins nombreux, mais encore plus étoffé que par le passé. Toulouse, de son côté, n'a que 2 recrues, dont Anthony Gelon, dont on vante énormément le talent et qui devrait faire vraiment des étincelles à Toulouse, même ouais. si on ne le verra pas ce soir. Hein. T'as 2 recrues avec Nanaï Williams également, 8 départs. Mais c'est quand tu t'attaches vraiment au profil et au nom des départs que c'est peut-être finalement à Toulouse que ça a le plus changé.
Eh oui.
2 départs à la retraite avec Jérôme Caïno et Johan Hugé. Alors ouais. Johan Hugé, il était blessé hein, justement en fin de saison dernière, donc ça c'était acté. Jérôme Caïno aussi, mais voilà, il faut préparer cette succession. Et puis on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler dans ces 8 départs. T'as celui qui a surpris tout le monde.
Il y a quelques jours.
Voilà, Colby.
Et du coup, ça, effectivement, c'est quand même, quand on regarde les deux clubs, La Rochelle n'a pas perdu dans ses rangs un joueur comme le Colby toulousain. Ah c'est, Toulouse semble s'être quand même, par définition, affaibli en perdant Colby.
Et là où La Rochelle a fait très fort, bon, il y a énormément de joueurs qui vont arriver en fin de contrat à la fin de la saison, mais avant la finale de Top 14, ils ont quand même verrouillé entre autres, hein, un certain Will Skelton qui a considérablement changé le visage, la mentalité de cette équipe jusqu'en 2025. Donc ils ont frappé un très très grand coup. On l'a pas forcément trop vu parce que c'était juste avant la finale. Donc vraiment, on va dire que tout était braqué sur cette rivalité en finale. Mais le fait d'avoir sécurisé Will Skelton, ça montre énormément les ambitions de ce club qui ne cesse de croître.
Romain Asselin qui sera au commentaire ce soir du match de Top 14 entre La Rochelle et Toulouse. Romain, je te parlais tout à l'heure de l'avant-saison, pas de match amical pour La Rochelle. Est-ce que tu penses que ça peut déjouer face à Toulouse? Est-ce que tu penses que Toulouse sait qu'il y a moins de rythme à La Rochelle et qu'on va essayer d'intensifier les premières minutes de jeu?
Je t'avoue que tout le monde se pose la question. Il y a un brin d'inquiétude dans les rangs des supporters, notamment un peu moins des joueurs, parce que ils te trouvent des arguments infaillibles. C'est vrai que c'est une première dans l'histoire du championnat. Une équipe qui démarre une saison sans galop d'essai, sans les moindres minutes de jeu dans les jambes, c'est inédit. On se demande comment ça va se passer. Il y a plusieurs explications à cela. On va pas tout détailler, mais c'est vrai que la saison dernière a été très longue. Ils sont partis en vacances du coup très tard. Il y a eu un retour de joueurs différé. Il y en a qui ont repris il y a seulement moins d'un mois. Il a fallu aussi organiser l'étape du Seven à La Rochelle. C'était il y a une dizaine de jours. C'était l'étape du championnat de France. Donc ça, si tu veux, ça t'a annulé une date dans un calendrier qui était déjà très très restreint. Et puis derrière, quel est l'intérêt de faire seulement un match amical? Si t'en fais 3, à la limite, tu peux voir une progression, tu peux planifier des choses. Si t'en fais 1, tu vas faire tourner ton effectif, chacun va jouer 20 minutes, t'auras aucun enseignement à tirer de ça. Et la preuve en est, c'est que La Rochelle avait joué un match amical l'été dernier, il l'avait perdu 8-0, devinez contre qui encore?
Contre Toulouse.
Et ça les avait pas empêchés d'aller en finale. Oui. De la Coupe d'Europe et du Top 14. Ronan O'Gara a insisté cette semaine pour dire que 4 semaines de préparation, c'était suffisant.
Pas besoin de match.
Ils avaient envie d'un grand match.
Ouais.
Et quoi de mieux que Toulouse?
14h14, vous êtes sur RMC, on s'intéresse à ce choc, cette affiche de la première journée de Top 14 que vous vivrez sur RMC à partir de 21h05. La Rochelle, Stade Toulousain, ce soir, c'est vrai que ça a été le tube de l'année dernière, finale du Top 14, finale de la Champions Cup entre ces deux équipes remportées à chaque fois par Toulouse. Mais la différence cette année, Romain, c'est qu'il y aura du public à De Flandre, match à guichet fermé. Tu as rencontré des supporters cette semaine dans La Rochelle, on va écouter deux de ces supporters, on en parle juste après.
On va pouvoir, entre guillemets, reprendre une vie normale et une vie de supporter, voilà, comme on a connu il y a un moment maintenant. Donc, hâte de retrouver cette ambiance et ces guichets fermés.
On va s'attendre à une communion renouvelée depuis 18 mois entre un public qui est passionné, des joueurs qui sont également dans l'attente, avec certainement un grand spectacle qui honorera le sport et le rugby en particulier. Donc tout laisse à penser que ça sera une grande fête du sport avant tout.
Romain, La Rochelle est préparé donc à accueillir ses supporters.
Ouais, complètement. C'est la transition à Marcel de Flandre. Alors, c'était un petit stade, hein, un stade de ville, 16 000 places en termes de capacité. Le dernier guichet fermé, c'était tout simplement juste avant la pandémie. C'était en février 2020, la réception de Toulon. Et on était sur une série de 55 guichets fermés consécutifs en top 14. Rendez-vous compte, ça faisait plus de 2 ans et demi que ça durait. Donc c'est vrai que d'un coup de se retrouver à huis clos, ça a été compliqué pour les Rochelais. Ils s'en sont bien sortis puisqu'ils ont perdu qu'un seul match à domicile la saison dernière. Contre Toulouse, faut-il le rappeler encore. Mais c'est vrai qu'ils insistent énormément là depuis qu'on a pu les revoir depuis leur retour de vacances sur le fait de retrouver leur âme. Tu me diras, c'est un peu le cas de toutes les équipes et on a vu les ambiances dans les stades de rugby, ne serait-ce qu'hier. Ça va être la folie et c'est vrai que La Rochelle, la particularité un petit peu des supporters de La Rochelle, c'est que ils n'ont pas pu vivre au stade la saison. La plus belle
Oui, c'est ça, la saison grandiose de la saison dernière, c'est ça.
Exactement. Et donc, ils sont énormément frustrés. C'est pour ça qu'on a entendu Maxime le disait devant la télé, bon, c'est bien, mais on ne le vit pas comme au stade. Et tout ce qu'ils ont envie, c'est de vivre la même saison avec la cerise sur le gâteau au bout, c'est-à-dire un titre, mais dans le stade cette fois-ci.
Merci beaucoup Romain. Romain Asselin, direct de La Rochelle, Toulouse. La Rochelle, Toulouse, c'est ce soir à 21h05. Première journée de top 14. La saison va être lancée et très bien lancée. À ce soir Romain.
À ce soir.
14h17 dans un instant. Le tennis à l'US Open avec Eric Salio. Tiens, je sais pas si t'as vu Oussem.
Ça vient de tomber.
Une petite info foot, là, concernant l'équipe de France. On en a beaucoup parlé cet été. La fameuse altercation après l'élimination.
Avec les familles.
Eh oui, entre la mère d'Adrien Rabiot et les clans Mbappé Pogba à l'Euro.
Oui, il y a Adrien Rabiot qui s'est exprimé chez nos confrères de Téléfoot sur TF1. Et il a donné sa version des faits. Il ne s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes. C'était un peu surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec elle, dit Adrien, en parlant de sa maman, je la crois. Et donc il s'est confié. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé dans les tribunes, c'est la vérité. Alors nous, on avait eu des témoignages sur RMC, notamment une personne qui était dans cette tribune-là, qui était venue témoigner et qui nous avait dit tout ce qui s'était passé et les échanges qu'il y a eu. Qui ment, maman Rabiot, Adrien Rabiot ou notre auditeur. Bon, je ne suis pas notre auditeur, moi.
Non, mais en tout cas, il a donné la meilleure explication, l'argument irréfutable. Je cite, j'ai parlé avec ma mère,
je la crois.
Oui. Voilà. Donc, voilà. Effectivement, on peut le croire.
En plus, moi, ma mère, elle m'a souvent dit que quand tu bois du lait, tu grandis beaucoup. Mm. Je me suis arrêté très vite.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'était bon pour les autres. Après, on disait ça au goûter.
Je la crois.
Ouais. Merci pour ces explications. 14h18, l'intégrale foot continue avec dans un instant du tennis. L'US Open, la deuxième semaine va débuter sans français. Tiens, on en parle avec Eric. Salut, à tout de suite.
RMC Intégrale Foot. RMC Intégrale Foot.
Oussem Loussaïès, Thibaut Giangrande.
14h21, une excellente après-midi à l'écoute d'RMC. En ce dimanche, on parlait rugby il y a quelques instants avec l'affiche ce soir. Mais l'événement en attendant de La Rochelle-Toulouse de 21h05, c'est la Formule 1.
Exactement, à 15h avec Benoît Boutron et Jean-Luc Roy, Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen à domicile devant ses supporters en pole position, suivi de près par Lewis Hamilton. Une bonne quatrième place pour Pierre Gasly. Ouais. On en parle à 14h40. Avec Jean-Luc Roy.
Dans un instant, le tennis avec Eric Salio et la deuxième semaine qui va peut-être consacrer Novak Djokovic à l'US Open. Mais d'abord, la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Il va y avoir le passage de drapeau entre Tokyo et Paris. On va rapidement aller voir justement Morgane Mori qui est encore à Tokyo. C'est bientôt le grand moment.
Oui Thibaut, bientôt le grand moment. On est dans une partie chantée, dansée avec des interprètes qui ont des costumes fluorescents avec des reflets métalliques. On a construit une réplique miniature de Tokyo. Ça danse beaucoup. On a des percussions. Il y avait un petit passage pratiquement brésilien tout à l'heure avec un roi et une reine en fauteuil roulant avec beaucoup de plumes, beaucoup de froufrou. Là, on est passé à quelque chose de plus moderne avec du breakdance. Peut-être un petit rappel pour le breakdance qui va arriver aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Là aussi, des costumes très chamarrés, très colorés, des danseurs sur des échasses. Le défilé des athlètes est terminé. Dans quelques instants, la passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024. À voir ce qui est prévu. On a un petit avant-goût. On connaît déjà un petit avant-goût de ce qui est prévu. Thibaut, Oussem, on va laisser la cérémonie se dérouler. On va vous raconter ça dans un instant.
Bah tiens, justement, on va aller prendre la température au Trocadéro parce que c'est là que on va récupérer le flambeau, le drapeau transmis de Tokyo.
Sans bouger, Morgane reste à Tokyo et Nicolas Pelletier
au Trocadéro.
Ils sont forts.
Magie de la télé, magie de la technologie. C'est fou ce qu'on fait avec la technologie. Ça va passer comme ça le drapeau.
En tout cas, bonne musique derrière Nicolas Pelletier.
Salut Nico.
Salut Thibaut, salut Moussa.
C'est le dernier tube des Daft Punk, ça. C'est One More Time.
C'est ce qui les a fait séparer. C'est ce qui les a fait séparer.
Je pense qu'ils ont mis la playlist de Thibaut dans la machine.
C'est fort possible.
C'est vraiment tous tes tubes.
Si t'entends du Maître Gims, c'est que c'est sa playlist.
Il y a même eu du Kinvé.
C'est sa playlist.
C'est magnifique. On en est où de cette cérémonie? Qu'est-ce qui se passe au Trocadéro, Nicolas?
Alors là, il y a juste tous les athlètes paralympiques qui viennent d'arriver sur la scène du Trocadéro. Ça va être le début du segment artistique de Paris 2024 dans quelques minutes pour clôturer ces Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Plusieurs milliers de spectateurs sont présents ici sur la plateforme du Trocadéro pour admirer le spectacle. Et j'ai une petite pensée pour les enfants qui sont devant depuis 11 heures ce matin. Il fait une température de dingue ici sur la plateforme du Trocadéro. Et les enfants sont devant, ils agitent les drapeaux, ils sont là depuis 11h ce matin sous le cagnard parisien, parce que oui, il fait...
Mais c'est ça la passion, Nico, tu comprends rien à la passion,
là,
Nico.
Les pauvres, je pense qu'ils peuvent avoir un malaise dans quelques minutes, mais bon.
On leur souhaite pas, en tout cas ils sont là pour kiffer, comme toi tu es en train de kiffer ton moment actuellement, et on attend la passation, Nico.
Ouais, c'est ça, dans la passation, le passage de relais entre Tokyo et Paris. Ouais. Il va avoir la Marseillaise, puis deux chanteurs qui vont interpréter des musiques pendant une dizaine de minutes entre Tokyo et Paris. La moitié de ce temps sera enregistrée, l'autre moitié sera diffusée ici depuis le Trocadéro à l'ensemble des télévisions à l'international.
On connaît l'identité des chanteurs qui vont venir chanter ou...
Alors, il y a Betty Mutumalaya qui va chanter la Marseillaise, okay. Chansignée. Il y a Sadek Wolf qui va faire un show artistique. Et enfin, une performance musicale de Pone, si tu connais. Ouais.
Pardon ?
Tu connais Pone ?
Non.
Ah, Pone, si, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est ancien Ariam, non, c'est ça ? Ou Funky Family, ancien producteur de la FF.
Écoute, ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est pas sur RTL.
Aucune culture celui-là.
Merci beaucoup, Nicolas. Je suis à deux doigts de demander de laisser les Daft Punk. Non, de finir le truc sur RMC. Je trouve ça magnifique. Merci. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, pour la suite de cette cérémonie de clôture sur RMC.
Retrouvez tout le meilleur du sport sur RMC avec Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française Handisport depuis 2003.
14h25, l'heure du défi hippique.
RMC.
Le défi hippique.
Et c'est avec Mathieu Zaccanini. Bonjour Mathieu.
Bonjour Thibaut, bonjour Roxane.
Salut Mathieu.
C'était ça? C'était la Funky Family?
Ouais, bon, c'était la FF. Bon,
exactement. Oui, voilà.
C'était bien ça. On retourne aux chevaux et aujourd'hui on part sur l'hipporome de Paris-Longchamp. Il s'agit du prix des grandes carrières. Il s'agit d'une épreuve de plat, un handicap divisé disputé sur la distance des 1850 mètres. Et ils ne sont plus que 15 à prendre part à cette compétition puisque le numéro 8 Go Wins the Win est non partant et donc ils ne sont plus que 15.
Bien son nom, dis donc.
Ouais, exactement. Il est parti avec le vent. Et on est toujours avec Guillaume. Salut Guillaume.
Salut Mathieu.
J'espère que tu vas bien.
Très bien, toi.
Ouais, nickel. Je voulais savoir qui est ton favori dans cette épreuve qui est très ouverte.
Oui, très ouverte. Pour moi, ce sera le 4 Go to Hollywood.
Eh bah, très bien. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bah, écoute, c'est un vrai spécialiste de Longchamp. Je trouve que la dernière fois, il a très bien couru dans le grand handicap de Deauville et il n'avait pas couru depuis 2 mois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il retrouve l'hippodrome qu'il affectionne et le tandem Barbereau-Benoît, ça peut faire mouche.
Bah, très bien. C'est vrai que l'entraînement de Yann Barbereau est très en forme cette année. Nous, on va lui opposer le numéro 1 Houkin, qui est la propriété d'Antoine Griezmann, d'ailleurs, pour information.
Ah.
Et qui est très confirmé dans les handicaps en valeur 43. Donc, je pense qu'il peut enchaîner. En plus, il a repris de la fraîcheur. Il n'a pas couru depuis le 27 juillet. C'était sur l'hipporome de Compiègne. Donc, je pense qu'il peut bien faire. En tout cas, sache, Guillaume, que si le numéro 4 Go to Hollywood termine devant le numéro 1 Houkin, tu reviens dès demain pour un nouveau défi hippique. Bonne chance à toi.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Moi, je ne te suis pas, Mathieu, puisque c'est le cheval d'Antoine Griezmann. Tu le mets gagnant. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Pas la meilleure idée.
C'est peut-être pas la meilleure idée. À moi à la place, on va dire. Dans les trois premiers, ça reste toujours. Je reste confiant là-dessus.
Bah, c'est un cheval qui se défend bien, qui défend bien en tout cas, mais c'est vrai que t'as du mal, à conclure.
Offensivement, c'est
compliqué. Voilà, en ce moment, c'est compliqué. Mais bon,
Merci beaucoup, Mathieu. À demain, 14h27. Place au tennis sur RMC. La deuxième semaine de l'US Open débute ce soir. Et, oh, surprise, Oussem.
Oui.
Figure-toi qu'il n'y a plus de Français.
Mais non.
Dingue, non?
Bah, tu mens.
Bonjour Eric Salio.
Bonjour à tous, bonjour à vous deux.
Salut Eric.
La voix du tennis sur RMC. Alors Eric, faut dire quand même qu'on n'est pas passé loin d'avoir un Français. Gaël Monfils, battu en 5-7 seulement par Yannick Sinner. Ça a été un super match hier.
Oui, match très spectaculaire avec un scénario complètement dingue puisque Gaël Monfils a plusieurs fois été à deux doigts de disparaître assez vite et surtout dans le quatrième set où il était mené donc 2-7-1, 4-0. Dans le quatrième, on était déjà en train d'enterrer le Parisien. Et puis voilà, il y a eu un miracle. Il a aligné 6 jeux de rang. Et là aussi, il va le faire. Il va faire la remontada peut-être de sa vie. Et malheureusement, dans le cinquième, il a coincé face à un Yannick Sinner qui a vraiment tenu ses nerfs. Donc, vous imaginez la déception du Français en conférence de presse quand vous devez venir une vingtaine de minutes après pour pouvoir écouter donc la Monf. Déçu, mais fier du spectacle proposé quand même.
Il est comment est-ce qu'on a
on l'écoute Gaël Monfils.
Écoute, j'ai perdu il y a 20 minutes Franck, donc c'est un peu dur là, je te gâche pas. C'était beau quoi. Franchement, c'était incroyable, c'est des matchs comme ça qu'on a envie de jouer, c'est des matchs comme ça comme je dis à chaque fois, c'est pour ça que le matin on a la banane d'aller jouer dans les stades comme ça. C'était juste fou quoi. Vraiment, c'était juste fou quoi.
Et ouais, un beau spectacle, mais malheureusement au bout du bout, 6-4 au cinquième, l'élimination pour Gaël Monfils. Et Eric, conséquence directe de cette défaite, une stat qui fait mal que tu vas nous donner tout de suite.
Ouais, donc vous avez bien calculé durant toute cette année dans les grands chelems, il y a pas un Français qui a atteint les huitièmes de finale. Donc c'est terrible,
c'est historique, hein.
C'est historique. Ouais. On va pas trop insister là-dessus.
Bah déjà il faut insister là-dessus, Eric. Pourquoi on n'insiste pas là-dessus?
On avait un Français au troisième tour, ce qui était déjà bien parce que ça n'avait pas été le cas à Roland-Garros et ça avait fait beaucoup de bruit. Ça avait engendré des débats sur la relève. Bon, bah, la relève, elle n'est pas encore prête. Hein. On parlait d'Hugo Gaston. Hugo Gaston, il a perdu en qualif. Les jeunes se font les dents et c'est vrai que c'est... Hugo Humbert, notamment, a perdu dès le premier tour contre un garçon qui est encore en course, un Allemand qui est sorti des qualifs. Donc voilà, il y a eu beaucoup de contrariétés, mais... la bonne nouvelle, c'est que Gaël Monfils a retrouvé l'envie de jouer. Il vient de fêter ses 35 ans, donc je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui. Il faudra juste qu'il travaille sur une autre stat qui fait mal, c'est que tous les cadors, vous le savez bien, ils ont des bilans favorables dans les 5-7.
Ouais.
Sauf Gaël Monfils. Gaël, il a perdu hier son 18e match 5-7. Il est à l'équilibre. Et ça, c'est pas normal pour un joueur qui veut prétendre remporter des grands titres. Il faut remporter ces matchs de légende, tout simplement.
T'es en train de nous dire que c'est pas un cador, c'est ça?
Ben non, mais c'est vrai que Gaël Monfils passe pour être un athlète,
oui.
Aucun doute là-dessus. Mais c'est là qu'on se rend compte que dans les matchs en 5-7, il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a d'autres choses et malheureusement, dans toute sa carrière, il a perdu beaucoup, beaucoup de matchs à la vie et à la mort. Des matchs serrés, 7-6 au 5e, 7-5 au 5e, 6-4 au 5e hier. Et voilà, ça passe pas. Et c'est dommage parce que ça le prive de grande joie et ça prive le tennis français de grandes performances dans le tournoi majeur.
En tout cas, je valide cette phrase, Eric. Il n'y a pas que le physique qui compte. On me l'a souvent dit, et je
valide. Et je pense que les personnes qui t'ont dit cette phrase-là sont des gens très doués, d'intelligence,
honnête.
En tout cas, Eric, la question que tout le monde a envie de te poser : est-ce que Novak Djokovic va remporter ce tournoi ?
C'est quoi cette musique? C'est une musique de suspense, mais sous extra, tu vois. C'est suspense speed, quoi.
Là, on est sur un suspense stressant, quand même.
Bah, écoute, il faut. Est-ce qu'il sait compter jusqu'à 12, Novak Djokovic? Je pense que oui, même si faut utiliser 3 mains. Non, il est à 12-7, effectivement, de l'exploit suprême. Il a eu une première semaine assez agitée, quand même.
Puisque, il a perdu 2-7, hein, déjà, quand même.
Voilà, exactement. Il a perdu un set contre un jeune Danois, Holger Rune, qui, vous l'avez peut-être vu, s'était présenté sur le coup avec un énorme sac bleu Ikea pour mettre toutes ses petites affaires, ses boissons. Non,
c'est pas un partenariat.
Non, pas du tout.
Non, c'est jamais.
Bon, peut-être qu'il a voulu. Non, je pense pas. Je pense pas. Il l'a dit. C'est un sac qui est génial parce que je peux mettre plein de choses dedans.
Mais c'est hyper pratique. C'est vachement solide.
Exactement.
Mais c'est un sac super tu peux pratique, mettre une commode dessus. Bon, t'arrives pas à la porter, mais le sac ne bouge pas. C'est impressionnant.
Donc ça, c'était la petite alerte. C'était mardi. Et puis hier, il a été bien bousculé par Kei Nishikori, le japonais, qui a pris le premier set. Mais derrière, le rouleau compresseur serbe s'est mis en route. Il a gagné en 4. Prochain tour contre un jeune américain que vous ne connaissez pas, mais moi que j'ai vu jouer au cahier de Roland, c'est un mec qui va faire très mal dans les prochaines années. Il s'appelle Jenson Brooksby et c'est un garçon qui a un QI tennis très élevé. Maintenant, ça arrive d'être un peu juste pour aller défier le numéro 1 mondial, surtout dans le cratère du Stadium Arthur Ashe, mais ça va être un match intéressant. Ouais.
Eric, on continue de parler tennis avec toi dans un instant sur RMC, mais on va retourner au Stade Olympique de Tokyo pour la cérémonie de clôture. Et ça y est, Morgane Maury sur place, le drapeau paralympique est dans des mains françaises.
Les mains d'Anne Hidalgo dans une robe bleue, elle a reçu de la part d'Andrew Parson, le président du comité paralympique international, lui-même des mains de Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo, dans sa robe grise et noire. Et c'est parti pour la passation avec Paris dans 3 ans, les Jeux paralympiques, c'est à Paris. C'est lancé maintenant, Thibaut.
C'est parti, c'est lancé effectivement et ça va venir vite tout ça. Merci Morgane. À tout à l'heure, retour au tennis sur RMC avec Eric Salio. Un événement, encore une fois, dans le tableau féminin, Eric. La numéro 1 mondiale a perdu hier. Ashleigh Barty, battue par la 43e mondiale, Rogers. Et du coup, ça donne une nouvelle fois un tournoi décousu chez les femmes.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes, de disparitions dans le tableau féminin. Donc, on savait déjà que Serena Williams était forfait. Naomi Osaka a sauté très vite avec les larmes qu'on suivit en conférence de presse. Mais Ashleigh Barty, on s'y attendait pas du tout. D'autant qu'elle a mené 5-2 au troisième set contre cette américaine. Mais ce qui est bien avec Ashleigh Barty, c'est qu'elle, elle prend tout avec légèreté. Elle a embrassé comme du bon pain Shelby Rogers. Elle était presque contente d'avoir perdu. Donc, c'est pas une fille qui se met de pression énorme.
Ça change de Naomi Osaka.
Ouais, elle a gagné Wimbledon, donc son année est d'ores et déjà réussie. Elle est solidement installée à la place de numéro mondial. Mais c'est vrai qu'elle a des petits soucis à Flushing Meadows. C'est pas son tournoi préféré, loin de là. Et quand vous regardez les rescapés, il y a une seule fille qui a déjà brandi le trophée à Flushing Meadows et il faut la chercher parce que c'est une fille qui est pas toute jeune, mais
ah bon,
c'est pas ma préférée en plus. Je le sais. C'est Angie Kerber. C'est la seule fille qui a déjà gagné le tournoi ici. Donc, c'est un tournoi très ouvert et je pense que je veux pas de mal à l'allemande, hein, mais je pense qu'on aura une nouvelle gagnante de Grand Chelem, une nouvelle gagnante de l'US Open.
Oui, on a compris que tu l'aimais pas, ça, Eric. C'est pas cool. Non, là, c'est pas cool.
Non, mais il y a des filles qui sont beaucoup plus armées qu'elle, mais. Ouais. Mais bon, pour l'instant, les pronostics sont durs à établir, hein, parce qu'il y a des filles qui sont. C'est tellement fragile le TC1, il ne faut surtout pas tenter des pronostics hasardeux, parce que sinon, vous perdez beaucoup d'argent.
Mais surtout sur le tableau féminin, hein. C'est vrai que depuis ces dernières années, c'est très instable en termes de performance. Il y a un joueur qui fait beaucoup parler de lui, Eric, depuis le début de ce tournoi, c'est Carlos Alcaraz. Alors, j'ai même lu quelque part que c'était le meilleur coup droit du monde en ce moment. Est-ce que tu es de cet avis-là ?
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il envoie. Il envoie, c'est impressionnant. Il a que 18 ans et il a frappé les esprits il y a 2 jours en éliminant Tsitsipas, qui était au terme d'un match remarquable. On savait qu'il allait débouler sur le circuit, mais on ne s'attendait peut-être pas à ce que ça arrive sur ciment, parce que il est né sur terre quand même s'il travaille avec Juan Carlos Ferrero et qui était très bon sur dur aussi. Mais il est en train de casser toutes les stats, parce que s'il va en quart de finale, et c'est très possible puisqu'il affronte le fameux Allemand, la Peter Gozzi, qui a battu Hugo Humbert au premier tour, ce sera tout simplement le plus jeune quart de finaliste de l'histoire de l'US Open.
Ah ouais.
C'était qui avant
carrément. Lui C'était André Agassi.
Ah.
En fait, s'il gagne ce soir, comme il est 8 jours plus jeune que Dédé Agassi, il va lui chipper le record. Et sinon, en grand chelem, le dernier joueur qui avait frappé les esprits, c'était Michael Chang à Roland-Garros. Donc voilà, on est sur des
standards élevés quand même, ouais.
Ah oui, ça commence à être intéressant. Mais si vous avez 2 minutes, jetez un œil. C'est ce soir, il va jouer vers 22h, 23h. Effectivement, il a un coup droit, mais pétaradant, quoi. C'est monstrueux.
22h, tu dis.
Générer autant d'énergie. Ouais, 22, 23h.
22h, je peux pas. J'ai top 14 sur RMC, La Rochelle et Toulouse. Ça commence à 21h.
C'est dommage. Crois-moi, Alcaraz, il faut jeter un œil.
Dans la nuit, on ira.
Et puis les jeux de mots commencent à fleurir avec Alcatraz. C'est intéressant. Il a un joli nom.
Oui.
Alcatraz, d'ailleurs, tu sais ce que c'est, Alcatraz?
Ouais.
C'est un centre commercial. C'est
à Ivry.
Oui, c'est ça. C'est sympa. Tu peux aller te promener.
Il est cramé à des kilomètres, celui-là. Un dernier mot aujourd'hui, c'est parce que c'est peut-être finalement lui le grand favori ou peut-être le plus impressionnant depuis le début de cette US Open. Daniil Medvedev contre Evans aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est lui qui frappe le plus fort pour l'instant?
Bah, c'est le favori de la moitié de tableau du bas, quoi. Si tu me dis dégage-moi un nom pour aller éventuellement priver Djokovic du titre dimanche, oui, je te dis Daniil Medvedev parce que il déçoit rarement, il met des taux à tout le monde. Il a faim parce que il a joué déjà deux finales de Grand Chelem, il les a perdues à chaque fois. Et ça, c'est un truc qu'il veut gommer au plus vite. Et effectivement, à partir du moment où Tsitsipas est sorti, on se dit que l'élu du bas de tableau, ça ne peut être que lui. Bon, maintenant, faut se méfier. Il y a tellement de surprises à l'US Open, il y a tellement de matchs en 5-7. Il y a la chaleur, l'humidité, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Va falloir se méfier. Mais ce soir, contre Dan Evans, en principe, ouais, ça devrait passer assez tranquillement.
Chaleur, humidité, des fois, on a une petite toux qui sort, Eric. N'hésite pas.
Christophe Cessieux aussi.
Tu tournes à la pharmacie avant la fin de cette US Open.
Rassure-nous, tout va bien.
Oui. Écoute, j'espère.
Le goût, l'odorat, c'est bien, ça va?
Pardon?
Le goût, l'odorat. Allô, on est tout. Ouais. Oui, okay, très bien. Bon, j'espère que vous avez bien profité d'Eric.
Oui, aussi, non?
Non, ça, c'est un autre problème qui rend. Eric, merci. Bon après-midi. Et évidemment, on te retrouve très vite pour parler de cette US Open. Et il y a beaucoup de choses à dire. On l'a vu tout de suite sur RMC, 14h38. L'événement avant le rugby dont on parlait, avant le tennis dont on parlait à l'instant, c'est la Formule 1. Le et départ du Grand Prix des Pays-Bas dans 20 minutes, Oussem.
Max Verstappen à domicile en pole position devant Lewis Hamilton, Pierre Gasly, 4e, et les As au mieux du classement, 19e et 20e. On en parle avec Jean-Luc Roy.
A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot. RMC Intégral Foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
14h40, merci d'écouter RMC en ce dimanche après-midi 5 septembre. J'espère que tout va bien, que la rentrée s'est bien passée. Rentrée du top 14 ce week-end.
Eh oui, deux affiches aujourd'hui, Thibaut. 17h45, le Loup reçoit Clermont. Et puis 21h05, La Rochelle face au Stade Toulousain.
Et c'est à vivre sur RMC, dispositif exceptionnel pour vous faire vivre ce retour, ces retrouvailles avec le top 14, tous les matchs sur RMC, avec la Dream Team Rugby. Mais d'ici là, dans 20 minutes, le départ sur RMC du Grand Prix des Pays-Bas. Max Verstappen. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'a.
Tu l'as fait en néerlandais.
Non, mais vu qu'on n'est pas en direct, on l'a refait.
Allez, vas-y.
On fera un point de montage. Max Verstappen est en pole position.
Ah là, c'est mieux.
C'est à vivre sur RMC avec la voix des sports mécaniques. Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Thibaut, salut Oussem et bonjour à tous.
Comment ça va Jean-Luc?
Oh bah écoute, ça peut difficilement aller mieux, tu sais, quand il y a 70 000 spectateurs en délire, repeints en orange, quand il y a un Verstappen sur la pole avec un Hamilton à quelques millièmes seulement et que on annonce un grand prix formidable sur un circuit fantastique, comment veux-tu que ça n'aille?
Eh ben ça y est, c'était tout. Merci Jean-Luc, tu peux repartir.
Bien, au revoir activités. Les gars, et je vous donne le résultat tout à l'heure.
Jean-Luc, première question, tu parlais des supporters, donc on va enchaîner là-dessus, puis surtout sur le circuit. Quel est le profil du circuit? Tu disais qu'il allait avoir des dépassements, que c'était un circuit où il fallait oser.
Alors voilà, les dépassements, ça va être difficile. Il y en aura, tu peux leur faire confiance. Hein. C'est un circuit long de 4 km 259. Il y aura 72 tours à parcourir, soit un peu plus de 306 km. C'est un circuit qu'on connaît depuis très longtemps. Hein. Un circuit qui était déjà fantastique dans le cadre de la Formule 1. Le dernier Grand Prix disputé là, c'était en 85, remporté par Niki Lauda devant Alain Prost et Ayrton Senna. Tu vois, ça fait quand même rêver.
Ah oui.
La pole, c'était Nelson Piquet qui l'avait décroché. Alors pourquoi n'y avait-il plus de Formule 1? Parce que comme c'est un circuit un peu à l'ancienne, c'est un circuit, on va oser le dire, un peu dangereux, mais ça fait partie du sport automobile. Là aussi, il ne faut pas nier cet élément très important des sports mécaniques. Il a dû être considérablement modifié. On a amélioré les dégagements comme d'habitude. On a fait ce qu'on appelle des bankings, c'est-à-dire la piste est inclinée dans deux virages, le numéro 3 et le numéro 14, ce qui permet de les prendre plus rapidement. Et puis voilà, et puis heureusement, c'est reparti grâce à un phénomène qui s'appelle Max Verstappen, évidemment.
Verstappen à domicile, tu sais que les supporters lui ont fait une chanson, tu sais ou pas ça Jean-Luc?
Alors oui, j'ai entendu quelques notes effectivement.
Tiens, bah écoutons-la 30 secondes.
Supermax. Supermax.
Un petit côté Mylène Farmer, c'est
l'année 80. Tout ça pour finir derrière Hamilton, quoi. C'est fou.
Très joli. Mais je crois que ça y est, je parle le néerlandais. J'ai compris ce qu'il dit.
Supermax.
Verstappen en poule à domicile. Tu le disais sur cette première ligne. Hamilton, juste derrière, ça promet une super bagarre. Depuis le début du week-end, comment sont les écarts entre la Red Bull de Verstappen et la Mercedes d'Hamilton? Est-ce que c'est une vraie bagarre là à laquelle on peut assister à partir de 15h sur RMC?
Alors écoute, elles étaient cet écart, il était un petit peu supérieur parce que Verstappen a réalisé le meilleur temps dans la troisième séance d'essais libres, un peu moins vite d'ailleurs, 1:09.623. Et à ce moment-là, Lewis Hamilton n'était que troisième, 1:10.417. Donc il y avait quand même un écart. On peut dire d'abord qu'on a travaillé, mais ça, comme d'habitude, on y est habitué chez Mercedes pour essayer de combler l'écart. Et puis Hamilton, c'est vraiment une bête de qualif. Il y a rien à dire. Il a tout sorti de la voiture, vraiment. Et à l'inverse, on a appris après que Verstappen avait eu un tout petit problème technique concernant le DRS, tu sais, la partie de l'aileron qui s'efface à l'arrière et qui fait gagner un petit peu de vitesse de pointe. Donc il y a certainement laissé 2-3 petits dixièmes, ceci explique cela. Mais bon, de toute manière, Hamilton a fait un tour absolument formidable. Et puis j'imagine qu'on va évidemment aborder le sujet. Ce qui est important ici, c'est la fameuse stratégie, parce que évidemment, sur 72 tours, un circuit qui est très abrasif,
le choix.
Il va falloir changer les pneumatiques.
Le choix des pneus. Venir.
Du coup, on partait pour pas spécialement en parler, mais puisque t'es dessus, vas-y.
Puisque tu insistes, alors, Jean-Luc, alors, quel choix de pneus pour être le plus apte possible sur les derniers tours?
Une excellente question.
Oh, merci pour cette question, je ne m'y attendais pas. Voilà. Je suis très surpris. Bon, en deux mots, normalement, évidemment, sur un circuit de Formule 1, on essaie de s'arrêter le moins possible, c'est-à-dire une fois. Mais là, on part dans l'inconnu. Alors, Pirelli a d'ailleurs amené les trois gommes les plus solides, les plus endurantes. Et malgré ça, les pilotes s'attendent, en fonction des essais, à une usure assez rapide.
Ah oui.
Donc, il y aura un ou deux arrêts. Et l'avantage, évidemment, de Mercedes, c'est d'avoir ces deux pilotes, Hamilton deuxième et Bottas troisième. Donc, ils vont switch, comme on dit, les stratégies. C'est évident qu'il y en a un qui s'arrêtera une fois et l'autre deux, alors que Verstappen, il est devant, il est tout seul. D'ailleurs, on a appris entre-temps que Pérez partirait des stands.
Eh oui.
Tu vois, donc pour une fois, Schumacher et Mazepin ne sont pas derniers. C'est Latifi et Pérez qui vont partir depuis la zone de stand parce qu'ils ont changé des éléments mécaniques. Donc, on ne peut pas jouer sur la double stratégie chez Red Bull alors qu'on le peut chez Mercedes.
Alors, l'autre événement de cette grille de départ, au-delà de la pole position de Verstappen, pour nous les Français, c'est cette superbe quatrième place de Pierre Gasly, Jean-Luc, sur l'AlphaTauri. Encore une fois, une super qualif. Bon, il est habitué aux belles qualifs. Parfois, c'est peut-être un peu plus dur en course quand même pour Gasly.
Écoute, c'est un type d'une rapidité formidable. On le sait évidemment depuis sa victoire en Grand Prix à Monza il y a presque un an. Il y aura un an dans quelques jours, c'est le prochain Grand Prix. Mais surtout, il égale sa meilleure qualif à Bakou, en Azerbaïdjan. Ça fait 3 fois de suite qu'il est dans les 6 premiers sur la grille de départ. C'est la 11e fois qu'il accède à la Q3 depuis le début de la saison sur 13 Grands Prix. Écoute, là aussi, on lui a reposé la question et lui, il sait pas. On se demande toujours pourquoi on le met pas dans le deuxième baquet chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Mais bon, c'est un petit peu pour la même raison, je vais faire un parallèle un peu cynique, pour laquelle Hamilton plaide pour Bottas et il veut pas que Russell vienne, parce que c'est
il
des équipiers qu'il domine facilement.
Voilà.
Et c'est aussi simple que ça, évidemment. Évidemment.
Il flippe, on veut de lui chez Red Bull, on veut que Pierre Gasly revienne chez Red Bull et qu'il leur montre à tous de quel bois il se chauffe. Alors nous, tu sais, on aime bien quand il y a beaucoup d'amour avec Thibaut, donc on voulait parler des As, où les deux pilotes s'entendent très bien, apparemment. Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe? Alors l'année dernière, on moquait souvent As avec les performances de Romain Grosjean, mais en fait, c'était le meilleur pilote qu'ils ont eu dans toute leur histoire. Qu'est-ce qui se passe entre Mazepin et Schumacher?
Ah, écoute, on n'a jamais la langue de bois. Écoute, c'est une équipe qui, allez, soyons honnêtes, a du mal à mériter de figurer sur la grille de la Formule 1. C'est l'équipe qui est là pour faire nombre. Tu sais, les organisateurs ont un contrat, il leur faut 20 voitures sur la grille. Donc, on maintient As, une équipe dans laquelle il n'y a pas de développement, il n'y a pas assez de financement. Bon, c'était une tentative d'un type formidable, un passionné de course américain, un milliardaire qui a des écuries qui fonctionnent très très bien, notamment en NASCAR, où il gagne. Et là, d'ailleurs, il commence un peu à se lasser. Donc personne n'en parle vraiment, mais je pense que c'est assez bien subventionné par le monde de la Formule 1 qui a besoin de 20 voitures. Et puis je vais te dire mieux que ça, moi je regrette qu'il n'y en ait pas 24 ou 26 comme à la grande époque, parce que ça permettrait à plein de jeunes pilotes de débuter. Et là le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volants pour tous les jeunes pilotes. On peut en parler, Yannick De Vries notamment.
Il y a un embouteillage, c'est ça que tu es en train de nous dire, il y a un embouteillage de jeunes pilotes qui n'arrivent pas à trouver un baquet.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de voitures sur une grille de départ en Formule 1, parce que les budgets, même si on a essayé de les réduire, on les a limités à 145 millions de dollars par an, c'est la première année là. Mais enfin, à côté de ça, on apporte des milliers de pneumatiques qu'on crame en deux temps, tout un tas de conneries, j'ose le dire.
Vivement que, écoute, Jean-Luc, vivement que Oussem Loussaïef continue sa percée dans les médias et qu'un jour on ait la Loussaïef Racing.
Et je ne te prendrai surtout pas toi en pilote, surtout pas.
Et au fait, félicitations Oussem.
Merci, merci, merci.
J'ai réalisé un exploit personnel.
Exactement, c'est vrai. J'ai fini le marathon en 1h20. Merci beaucoup.
En fait, t'étais pas tout seul, si j'ai bien compris quand même.
Non, ils étaient 12. Un dernier mot sur cette grille de départ, Jean-Luc. Des Ferrari qui sont là derrière Pierre Gasly, Leclerc 5e, Carlos Sainz 6e. Ça va être compliqué d'aller déloger le top 2, même si Perez n'est pas là.
Écoute, compliqué, oui et non. Alors, la pression est maximale au moment du départ. Tu sais que c'est là qu'on peut évidemment gagner des places, j'oserais dire gratuites. C'est bien là-dessus que compte Pierre Gasly, mais c'est aussi là-dessus que comptent les Ferrari de Leclerc et Sainz, qui sont derrière en embuscade et que Pierre a réussi à devancer grâce à un tour formidable, on l'a dit tout à l'heure. Et puis derrière, tu viens de l'évoquer, il y a les deux Alpines d'Ocon et d'Alonso qui sont dans le top 10. Non, il y a évidemment un coup à jouer. Alors maintenant, le virage s'appelle Tarzan, ça va vous faire marrer. Hein. Liane pour autant. Non, il n'y a pas de liane, j'ai bien regardé.
Mais il s'appelle Tarzan. Pourquoi Tarzan, on sait ou pas?
Parce que Tarzan.
Voilà, c'est un virage qui est fort, peut-être.
Ça doit être ça. Il faut s'accrocher aux branches, à mon avis, c'est surtout ça. Donc, c'est un village qui est un village. C'est un virage aussi à côté, qui est difficile à négocier, qu'on aborde donc à 300 km/h en course. Hein, là, les pilotes vont aller évidemment moins vite. Mais j'ai regardé hier les tests de départ. Ils arrivent quand même entre 260 et 270 avec le départ arrêté. Attention, parce qu'il y a les pneus froids, les freins froids. Donc, attention au freinage. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'un certain Bottas, tiens, allez, je vais le désigner, nous fasse un strike comme il a fait en Hongrie.
Bon, merci.
La piste est sèche.
Merci,
c'est la bonne nouvelle
de balancer, Jean-Luc. Ah, on te retrouve en tout cas dans l'intégrale.
On est là pour ça.
On te retrouve dans l'intégrale sport dès 15h avec Benoît Boutron pour ce Grand Prix des Pays-Bas avec Max Verstappen, donc à domicile face à Lewis Hamilton.
À tout à l'heure, Jean-Luc. Dans 10 minutes, le départ. Direction Tokyo. Retrouver une nouvelle fois Morgan Mori, notre envoyé spécial pour la fin de cet été de sport. Les Jeux Paralympiques, cérémonie de clôture, Morgan.
Oui, le drapeau français, le drapeau bleu, blanc, rouge qui vient d'être hissé dans le stade olympique de Tokyo. C'est la nuit, c'est Andrew Parsons, le président du comité paralympique international, qui est au micro. Avant lui, c'était Seiko Hashimoto, la responsable de l'organisation de Tokyo 2020. Et on vient d'en terminer avec la passation avec Paris. Thibaut, ce mini-spectacle avec Sadek et ses danseurs, ils étaient 120 habillés de noir dans une salle noire, certains en fauteuil roulant.
On a vu ça.
Que des gestes avec les bras. Ouais. Très spectaculaire, la synchronisation était au maximum, c'était très impressionnant. Et ensuite DJ Pone, l'ancien DJ de la Fonky Family, qui est prisonnier de la maladie de Charcot, qui vit dans un lit et qui a mixé avec ses yeux en direct pour le public présent à Tokyo et le public présent au Trocadéro. Et enfin cette image après un mot de Tony Estanguet qui a dit Arigato, qui a dit merci au Japon, la Tour Eiffel dans une animation qui avait une prothèse, il manquait une des jambes de fer de la Tour Eiffel qui avait été remplacée par une lame, par une prothèse et flotter le drapeau de Paris 2024. Ce sont les derniers instants maintenant à Tokyo de cette cérémonie de clôture de ces Jeux Paralympiques.
Excellent. Morgan Mori, une petite question, tu vas finir par rentrer à Paris ou tu...
Mardi.
Okay.
Mardi,
non, parce qu'on se posait la question au sein de la rédaction, ça fait 2 ans que t'es là-bas.
Ouais. Je me dis, on va pas le reconnaître, il va arriver et dire bonjour monsieur. On va pas le reconnaître.
Merci en tout cas Morgan de nous avoir fait suivre ces Jeux Olympiques et Paralympiques.
14h51, dans un instant, on en parlait avec Jean-Luc Roy. Formule 1 avec Benoît Boutron, le Grand Prix des Pays-Bas. Salut Benoît.
Ah oui, salut les gars. On va se régaler. Le Grand Prix de Zandvoort.
Et ouais. Tu maîtrises le néerlandais. Ça, c'est la force de avec Kevin Diaz.
Les graviers, effectivement. Peut-être un peu trop côtoyer Kevin qui a longtemps joué aux Pays-Bas. On va se régaler avec Jean-Luc. Vous avez bien présenté ce Grand Prix, le duel Verstappen-Hamilton, un Français qui est quatrième sur la grille. Franchement, ça va être top avec Jean-Luc. On reviendra tout de même à 15h20 sur le match de l'équipe de France hier soir, le match nul un partout en Ukraine.
Moins top.
Et on va déjà se projeter sur le France-Finlande à Lyon mardi soir. Ça y est, c'est fini pour vous aujourd'hui.
Ouais. C'est sport show.
Parce qu'il y a du rugby. Ouais.
Exactement.
Top 14.
Exactement. Bon, on arrive tout de suite pour le Grand Prix.
Bon après-midi. RMC. Intégral Sport.